Vous écoutez l'atelier des médias avec Connect, la solution de connexion Internet fixe par satellite qui permet de capter en haut débit partout en Afrique.
Salut, c'est Steven Jambeau de l'atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, un peu plus en podcast, je vous propose de revenir avec mon invité sur le traitement médiatique de la présidentielle française, sur le rapport aux médias de certains candidats et de certaines candidates et sur le rapport que le président réélu Emmanuel Macron a avec les médias. On va tenter aussi en fin d'émission de se projeter, voir ce qu'il peut se passer d'un quinquennat médiatique à l'autre. Bonjour Alexis Lévrier.
Bonjour.
Vous êtes historien des médias, maître de conférences à l'Université de Reims, spécialiste des relations entre journalisme et politique. Merci d'être en duplex depuis les studios de France Bleu Périgord à Périgueux. Alexis Lévrier, cette campagne présidentielle a eu ceci de spécial qu'elle a démarré dès le mois de décembre avec un invité particulier, une personnalité issue des rangs des médias, c'est Éric Zemmour.
Oui, elle a même commencé avant, hein, puisque je crois que le point de départ de la campagne, c'est assez paradoxal, mais c'est le CSA qui en est à l'origine, au moment où il a décidé de comptabiliser le temps de parole d'Éric Zemmour comme celui d'une personnalité politique. Ce qui était peut-être d'ailleurs pas un très bon choix, parce que ça lui a permis lui-même, sans se porter officiellement candidat, d'être considéré comme tel dans les médias. Et donc, il a occupé tout l'espace médiatique. Il était un peu moins présent sur CNews, puisqu'il avait perdu son émission en raison de ce décompte du temps de parole. Mais en revanche, on l'a vu partout ailleurs. Et il a pu, avec beaucoup de succès, imposer pendant des mois un vocabulaire, un imaginaire, des obsessions et évidemment des idées autour de l'immigration, de l'identité, de l'islam. Et donc toute la pré-campagne, et qui a longtemps été la seule véritable campagne, a été organisée autour de la radicalité d'Éric Zemmour. Et les autres candidats étaient obligés de se situer par rapport à Éric Zemmour, par rapport aux médias aussi de Bolloré, qui avaient imposé un format, celui du clash, de l'invective, de l'affrontement. Et on a vu les autres chaînes d'infos, et même dans une certaine mesure les autres chaînes de l'audiovisuel, se calquer, s'inspirer de ce format-là. Donc il y a une victoire médiatique qui a été remportée par le groupe Bolloré et par Éric Zemmour, même si par ailleurs, Éric Zemmour, on le sait, a fini avec un score très modeste.
Vous venez de citer CNews, donc chaîne de Vincent Bolloré. Et là, je convoque l'historien que vous êtes. Les empires médiatiques en France ne sont pas nouveaux. Mais là, on est vraiment dans un grand patron qui, lui, souhaite utiliser les médias à des fins politiques.
Clairement, c'est une bataille culturelle, c'est une bataille politique qu'il mène et on peut voir aussi une évolution par rapport aux empires médiatiques récents qui étaient ceux d'industriels qui se contentent d'avoir une activité annexe dans les médias et qui s'en servent comme un outil d'influence ou au moins de prestige. Et là, Bolloré s'est recentré sur les médias. Il a vendu ses activités africaines. Désormais, c'est uniquement un groupe de médias au sens très large, hein, publicité, communication, presse écrite, audiovisuel, et avec d'abord une extension assez impressionnante et tout ça s'est fait en quelques mois ou au moins quelques années. Et puis, effectivement, avec la volonté de mener un combat qui se situe à l'extrême droite. Il y avait des patrons de presse, on peut penser à Robert Arsan dans les années 80 qui menait une bataille politique, mais plutôt sur une droite parlementaire assez classique. Dans le cas de Bolloré, on est sur un combat qui vise à faire triompher des idées, disons, xénophobes, racistes. C'est un combat culturel d'une droite réactionnaire qui avait un peu disparu dans les médias, notamment depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, parce que ces idées, on sait jusqu'où elles avaient conduit. Donc, elles étaient plus tellement représenté dans les médias mainstream. Et là, on a désormais l'empire médiatique le plus influent en France qui mène ce combat-là et qui l'a mené durant cette campagne autour d'Éric Zemmour.
Donc Vincent Bolloré, si je vous suis, a réussi à perturber la campagne électorale. Peut-on aussi dire que grâce à lui, il y a une extrême droite médiatique qui se structure et que cela va durer dans le temps ?
Oui, c'est ce qui est très marquant sur CNews, c'est-à-dire qu'il y a des médias d'extrême droite, une droite radicale, disons, qui s'était structurée depuis une dizaine d'années, qui occupait un espace de plus en plus important, notamment avec Valeurs Actuelles, qui depuis 2012 et depuis l'impulsion d'Yves de Kerdrel menait ce combat-là avec, en multipliant les unes sur l'islam, sur les Roms, sur les nouveaux barbares venus de l'étranger, qui a déjà subi plusieurs condamnations judiciaires pour cela. Et il y avait Boulevard Voltaire, il y avait L'Incorrect, comme ça, un certain nombre de médias qui sont plutôt de la presse écrite, écrites et qui sont tous retrouvés sur les plateaux de CNews. CNews est devenu le catalyseur d'une extrême droite médiatique qui était en pleine renaissance depuis une dizaine d'années. Et c'est comme ça qu'ils ont pu mener ce combat culturel qui, à mon avis, survivra d'ailleurs à l'élection présidentielle, même si Éric Zemmour a connu finalement une certaine infortune dans les résultats de la présidentielle. Ce combat ne va pas s'arrêter avec la présidentielle.
Alors, Éric Zemmour, je le disais, est une personnalité issue des rangs des médias. C'est un éditorialiste. Durant un de ses meetings, notamment au Trocadéro à Paris, Éric Zemmour a fait huer les journalistes, ses anciens confrères donc. Et pourtant, les chaînes d'infos ont retransmis ce meeting en intégralité. On a vu tout au long de cette campagne, à la fois des journalistes, mais aussi des responsables politiques, dire que les médias sont responsables de la montée du phénomène Éric Zemmour. Phénomène qui, au final, a fait un peu pchit, puisque il n'a rassemblé, entre guillemets, que, même si c'est beaucoup, 7% des suffrages exprimés.
Oui, et je crois qu'il y aura une vraie réflexion à mener sur le rôle des médias dans la zémourisation des esprits, puisque il est clair qu'ils ont relayé, et là pas simplement les médias audiovisuels, hein, j'ai été assez interloqué par la place qui a été consacrée dans beaucoup d'organes de presse écrite à la campagne de Zemmour, alors même que ça n'était pas encore une campagne, c'était censé être la sortie d'un livre, hein, et on a suivi pas à pas tous ces meetings qui en fait étaient déguisés en rencontres littéraires, sans la distance qui aurait été nécessaire. Il y a une forme de fascination d'anciens collègues de Zemmour pour quelqu'un qui, pourtant, menait campagne contre les médias, avec une hypocrisie totale, puisqu'il faut rappeler qu'Éric Zemmour, il est l'incarnation du système qu'il prétend dénoncer. Il est journaliste politique depuis 40 ans, et vraiment le journaliste politique à la française, c'est-à-dire il fréquente les politiques, il fait des déjeuners, il est dans l'entre-soi avec le pouvoir depuis toujours, il n'a jamais fait de reportage, d'investigation, qui sont les formes nobles du journalisme. C'est vraiment un journalisme politique au sens le pire du mot, et qui aujourd'hui se prétend le pourfendeur, celui qui va incarner la lutte contre ces mêmes médias. Donc il y avait une forme d'hypocrisie qu'à minima il aurait fallu dénoncer, et au lieu de cela, on a eu une forme de fascination. Les journalistes ont été comme des lapins aveuglés par les lumières de fardes ou de projecteurs. C'était assez surprenant de voir ça, et je crois que ça devra mener l'ensemble des médias, médias audiovisuels bien sûr, mais presse écrite également, à s'interroger sur la place qui a été laissée à Éric Zemmour et évidemment à ses idées.
Alors vous estimez aussi qu'il est urgent de revoir les lois en France qui encadrent l'audiovisuel, puisqu'il faut parler du rôle de l'ARCOM dans cette histoire, l'autorité de régulation des médias et du numérique. En janvier, dans l'atelier des médias, je recevais Roch-Olivier Maistre, le président de l'ARCOM, donc né de la fusion du CSA et d'Adopi. Il me disait à ce micro qu'à ses yeux, l'antenne de CNews était maîtrisée, malgré les propos et la présence d'Éric Zemmour et de l'extrême droite sur l'antenne. On a vu dernièrement Reporters sans frontières saisir le Conseil d'État pour dénoncer l'inaction de l'ARCOM. À votre avis, que faut-il faire pour réformer ce système-là ?
Alors, je partage complètement l'indignation de RSF et leur volonté de rappeler le CSA ou l'ARCOM désormais à ses obligations. Le rôle du CSA était complètement paradoxal. En début de l'année 2021, Roch-Olivier Maistre disait que le CSA n'était pas le tribunal de l'opinion. C'était sa phrase exacte, et que par conséquent, ça n'était pas à lui de comptabiliser, de dire qui était journaliste et qui était politique. Et il pensait évidemment à Éric Zemmour. Il disait on ne décomptera jamais son temps de parole. Il a finalement fait l'inverse au mois de septembre, donc en rétropédalage complet, en disant si finalement c'est un politique déguisé, on ne sait pas sur quel critère. Et puis de toute façon, c'était complètement contre-productif, puisque ça a permis à Zemmour, sans se déclarer officiellement candidat, d'être partout dans les médias. Donc il faut revoir ça. Quand est-ce qu'un journaliste devient vraiment politique ? Je ne suis pas sûr que ce soit l'ARCOM de le décider. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est rappeler une chaîne d'information, il faut rappeler que CNews, c'est ça, à ses obligations de pluralisme de l'information. Là, tous les plateaux de CNews, je les ai un peu connus à une époque, ont basculé vers l'extrême droite progressivement. Et alors, il y a quand même quelques figures de gauche, hein, dont certaines ont du talent, mais l'équilibre de cette antenne est complètement en faveur d'idées d'extrême droite, et ça n'est même pas dissimulé d'ailleurs. Et on a offert à Zemmour pendant 2 ans dans Face à l'info une tribune, parce qu'il n'avait aucun contradicteur face à lui, ce qui était très différent des médias qu'il avait connus jusque-là, chez Ruquier ou dans 16 disputes, où il y avait toujours face à lui des gens qui pensaient différemment. Là, il n'y avait autour de lui que des gens qui étaient au service de sa pensée. Et ça invite d'ailleurs à s'interroger sur le rôle rôles individuels qu'ont pu jouer des gens comme Christine Kelly. Alors, le pouvoir lui en veut pas, puisqu'elle a été déclarée de l'Ordre national du mérite, mais elle a offert une tribune incroyable à Éric Zemmour. Il a pu tenir des propos, par exemple, sur les mineurs isolés, donc sur les délinquants étrangers, et en disant que tous les immigrés, tous les jeunes immigrés étaient des délinquants potentiels, et qu'il fallait tous les mettre à la porte. Et il n'y avait, alors même que l'émission était en léger différé, il n'y a jamais eu de volonté de CNews de l'empêcher de tenir de tels propos. Donc il est évident que dans la place qui a été laissée à Éric Zemmour, mais plus généralement dans la dérive de l'antenne vers un média d'opinion de plus en plus radicalisé, eh bien il y a une interrogation à avoir. Et il est certain que le CSA n'a pas joué son rôle. Je crois qu'au-delà de ça, il faudra revoir nos instruments de régulation qui datent des années 80. Alors il y a le rôle du CSA, mais il y a le rôle d'une loi qui existait depuis 1986 sur la concentration dans les médias et qui est devenue complètement inadaptée au paysage médiatique tel qu'il est aujourd'hui. Si on veut lutter contre Bolloré et contre le combat culturel qui est le sien, il faut avoir des instruments de régulation qui puissent empêcher qu'il propage comme ça dans l'ensemble des médias des idées dont on sait qu'elles sont non seulement réactionnaires, mais qu'elles sont contre la loi. Il y a des propos sur CNews qui relèvent de l'injure raciale, de l'incitation à la haine religieuse. Zemmour a été condamné à plusieurs reprises là-dessus et il faut lutter contre cette dérive-là, que ce soit à la justice de s'en saisir. Il y a un rôle des médias eux-mêmes et des instances de régulation des médias pour empêcher que de tels propos soient proférés en permanence sur CNews comme dans d'autres médias du groupe Bolloré.
Restons à l'extrême droite. Il y a une candidate qui a réussi à se rendre présentable, parfois à grand renfort de chat, repris par certains médias. Pas de diabolisation pour Marine Le Pen dans cette élection présidentielle 2022. Une candidate qui aussi, on peut le dire, a été normalisée justement par ce que vous venez de raconter, la présence d'Éric Zemmour et le soutien dont il a pu bénéficier de la part de certains médias.
Oui, c'est tout le paradoxe, si vous voulez. C'est-à-dire que sur CNews, pendant des mois, on a expliqué que Marine Le Pen était une femme de gauche. C'était clairement ce qui était dit. Que c'était une femme isolée. Et de fait, elle était abandonnée par une partie de ses soutiens. Et du coup, le danger qu'elle représentait a été complètement minoré. Alors, le but était de la délégitimer, mais ça a eu un effet paradoxal, c'est de la rendre sympathique. Et là encore, les autres médias peuvent s'interroger, même le service public. Je me rappelle d'une pastille sur France Inter où elle était interrogée. Alors, c'était quand votre premier chat, votre première déception, enfin, sur la carte de l'intime. Alors, elle a été chez Karine Le Marchand. On sait que Karine Le Marchand, c'est son but de rendre n'importe qui sympathique. Et Marine Le Pen, comme les autres, elle fait aucune différence. Mais que le service public puisse participer à cette opération de dédiabolisation pose question. D'ailleurs, il y avait eu des protestations au sein de France Inter face à cette pastille vidéo. Alors, c'était qu'une pastille vidéo dans le cas de France Inter. Mais l'ensemble des médias ont relayé cette, un peu naïvement cette campagne menée par Marine Le Pen qui était de se normaliser, de se présenter comme une femme rassurante. L'inverse de l'image qu'elle avait offerte en 2017, où elle avait été très agressive, on s'en rappelle, dans le débat de l'entre-deux-tours. Et là encore, on peut s'interroger sur le rôle qu'ont joué les médias. Ils ont relayé la radicalité d'Éric Zemmour et ils ont relayé la normalisation de Marine Le Pen. Dans les deux cas, il y a sans doute un manque de prudence et de distance.
Mais en même temps, la fin de campagne de Marine Le Pen a été assez agressive contre les médias. Chasser le naturel, il revient au galop, j'ai envie de dire. Écoutons-la le 12 avril dans une conférence de presse d'entre-deux-tours, où elle dit décider qui est journaliste et qui ne l'est pas.
Il n'y a pas de journaliste chez Quotidien. Ah non, non, mais pardon, si c'est que Quotidien, s'il n'y a que ça. Non, Quotidien, c'est pas une émission d'information ou de journaliste. Quotidien, c'est un amuseur. Parfois très drôle, d'ailleurs, je dis pas. Mais c'est une émission de divertissement.
C'est vous, madame, qui décidez de qui est le journaliste ou pas.
Vous voyez, je suis chez moi.
Et quand vous serez présidente, c'est vous qui décidez de qui est le journaliste ou pas.
Vous savez, je suis chez moi, donc dans mon QG et dans mon mouvement, Monsieur de Libération, qui a toujours eu et été accueilli d'ailleurs, en toutes circonstances. Donc, voilà, cela fait... Oui, mais bien sûr, mais cela fait des années... Cela fait des années, si, c'est moi qui décide.
Voilà une conférence de presse du 12 avril 2022. Marine Le Pen qui s'exprimait sur la question de la démocratie durant cette conférence de presse. Et là, on l'a vu retrouver son visage agressif envers les médias.
Oui, c'est-à-dire que cette campagne qu'elle a menée pour apparaître comme très, très... normal et comme très modéré, à un moment, bute sur l'évidence de ses idées et de son discours sur les médias. Elle est la fille de Jean-Marie Le Pen qui a fait toute sa carrière contre les médias mainstream. Et puis on sait que c'est structurant dans l'extrême droite française, mais aussi dans les pays, dans les démocraties libérales dont elle se réclame, comme la Hongrie, comme la Pologne, et évidemment comme la Russie. C'est cette dureté à l'égard des médias lorsqu'ils sont jugés trop indépendants. Donc évidemment, c'est pas à elle de dire si Quotidien est un média journalistique ou pas, et il l'est d'ailleurs. Il y a a des journalistes à Quotidien. Elle voulait absolument, dans l'entre-deux-tours, aller chez Hanouna, qui lui n'est pas un journaliste, mais elle trouvait ça tout à fait normal dans TPMP.
Donc sur C8, une chaîne là aussi de Vincent Bolloré.
Et oui, il y a un jeu trouble entre le groupe Bolloré et Marine Le Pen. Elle a été beaucoup brocardée, je le disais, sur ses antennes, y compris chez Hanouna. Et puis finalement, comme c'était la candidate du camp national, c'est comme ça qu'on dit sur CNews, hein, on ne parle plus d'extrême droite, on parle de droite nationale. Donc elle était la représentante du camp de la droite nationale et du coup, on était prêt à l'inviter chez Hanouna et Emmanuel Macron a refusé. Mais on ne peut pas dire que Quotidien, ce n'est pas du journalisme, alors que Hanouna deviendrait, lui, l'incarnation d'un journalisme indépendant. C'est totalement faux et ça n'est pas un candidat, quel qu'il soit, ni Emmanuel Macron ni elle, de décider qui est journaliste et qui ne l'est pas.
On sait qu'il y a aussi un candidat à gauche, pour le coup, là, qui a eu toujours des propos très durs envers les médias. C'est Jean-Luc Mélenchon. Qu'avez-vous trouvé et pensé de sa campagne et de son rapport aux médias durant cette campagne présidentielle ?
Je pense qu'il a bénéficié de cette prime à la radicalité. Parce que lui-même allait sur ce terrain-là. D'ailleurs, lui aussi a des propos très durs sur les journalistes. Il les a un peu minorés dans cette campagne, mais il s'en prend régulièrement aux médias. C'est structurant dans son discours. Et il faut se rappeler, par exemple, c'était le début de la campagne, en fait, quand le CSA décide que Zemmour est candidat. Immédiatement, il est invité sur BFM pour un débat face à Jean-Luc Mélenchon. Et je pensais, peut-être naïvement, que finalement, il avait tort, Jean-Luc Mélenchon, d'aller dans cette émission, parce qu'il y allait aux conditions fixées par Zemmour. C'est-à-dire qu'on n'a parlé que d'immigration, d'identité et d'islam. Et simplement, ce que je n'ai peut-être pas vu, moi, comme observateur, c'est qu'il était à l'aise, puisqu'il était dans un format qui lui convient, celui de la radicalité et de l'affrontement. Même chose quand il est allé dans Face à Baba, donc l'émission de Cyril Hanouna, et qu'il a accepté, je trouvais là encore un peu naïvement, que Éric Zemmour soit face à lui. Et finalement, Zemmour était censé être là 10 minutes, il a été là pratiquement 3 quarts d'heure. Et là encore, conditions fixées par le groupe Bolloré, donc avec ce discours sur l'islam, l'immigration, qui a priori n'est pas favorable. Et lui, face à cela, il opposait une autre vision de l'immigration, hein, en parlant d'une créolisation de la société française. Et il essayait de le présenter de manière optimiste. Et finalement, quand on voit le bon score qu'il fait, on se dit qu'il a fait un bon choix, c'est-à-dire que d'aller sur ce terrain de la radicalité et de l'affrontement, y compris face à Zemmour, lui a permis d'imposer des idées et un autre regard sur l'immigration. Donc c'était finalement un bon choix, même si concrètement, il a dû le faire dans des médias qui ne lui étaient pas favorables, et notamment chez Bolloré, qui menait clairement, et c'était évident dans cette émission Face à Baba, un combat culturel, sinon électoral, au profit d'Éric Zemmour. Donc il a été à l'aise dans un format qui était prévu pour Zemmour, mais qui lui a bénéficié.
Alexis Lévrier, historien des médias, cette campagne présidentielle française a tardé à démarrer, notamment en raison du conflit en Ukraine qui a mobilisé les rédactions, occupé du temps d'antenne sur les chaînes d'info en continu. Emmanuel Macron, dans tout cela, tout jupitérien qu'il a pu être, eh bien, a joué la carte des médias et s'est présenté sur certains médias, mais des médias qu'il a choisis très précisément, à chaque fois.
Oui, alors il y a deux choses. C'est-à-dire que, évidemment, l'actualité internationale a différé le lancement de la campagne. Mais le choix d'Emmanuel Macron, et moi ce que j'ai développé dans mon livre Jupiter et Mercure, c'est l'idée qu'il est jupitérien, donc il est mitterrandien, parce que Jupiter c'était le vocabulaire de Jacques Pilan, le communicant de François Mitterrand. Et donc il était évident qu'il allait rejouer Mitterrand 88. Mitterrand était entré en campagne 33 jours officiellement avant le premier tour, donc le plus tardivement possible. Et on savait que Emmanuel Macron allait essayer de faire pareil, d'escamoter le premier tour, à la fois parce que c'est très bien de rester dans cette position en surplomb quand on se veut un président vertical jupitérien, et aussi parce que, d'un point de vue idéologique, lui, il joue tout sur l'affrontement avec le camp populiste. On sait qu'il pense que le clivage droite-gauche n'existe plus et qu'il doit être remplacé par un clivage populiste-progressiste où lui incarnerait le camp progressiste. Donc tout était fait dans son rapport aux médias, dans sa communication depuis des années, pour organiser les conditions d'un nouveau face-à-face avec Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc son choix, c'était de retarder au maximum son entrée en campagne, un peu à la Mitterrand 88, et en revanche de tout jouer sur l'entre-deux-tours. La guerre d'Ukraine est arrivée au milieu de tout ça, et évidemment il n'en est pas responsable, mais ça n'a fait qu'amplifier cette volonté qui était la sienne depuis le départ, de différer autant que possible son entrée en campagne, et de fait, une fois qu'il s'est lancé, il a pu sélectionner de rares médias pour ces interventions. Et c'était très difficile, du coup, pour les médias audiovisuels, notamment qui se battaient entre eux pour avoir les rares interviews qui seraient accordées par le président. Et tout cela était un choix très jupitérien de différer son entrée en campagne, de sélectionner ses médias, de les mettre en concurrence entre eux et d'obtenir des interviews qui soient à son avantage. Ça a parfaitement fonctionné et la guerre d'Ukraine n'a fait qu'amplifier ce phénomène.
Et il a longtemps, ou très longtemps même, boudé l'audiovisuel public pour ça. On sait que sur France 2, eh bien, il a attendu l'entre-deux-tours pour se rendre dans le journal de 20h d'Anne-Sophie Lapix. Pareil pour France Inter. Et Emmanuel Macron, on sait, a joué sur la raréfaction de la parole présidentielle au début de son mandat. Il y a eu la crise du coronavirus où il a essayé d'être présent comme il l'entendait. La guerre en Ukraine, on vient de le dire. Revenons peut-être sur l'épisode du débat d'entre-deux-tours qui a été co-animé par Gilles Boulot, présentateur du 20h de TF1, et Léa Salamé, qui ont été réduits au rôle de chronomètre, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, dans un exercice qui paraît totalement désuet.
Oui, je crois qu'il faudra le revoir cet exercice parce qu'il est inspiré de ce qui s'était fait du double face-à-face Mitterrand-Giscard de 74 et 81. Et finalement, on ne fait que singer ce double débat depuis. Et on voit bien que ça n'est pas suffisant. Du coup, ça dure 3 heures. Et je crois qu'il faudrait davantage de débats et peut-être une forme inspirée des États-Unis qui permettent peut-être moins d'affrontements et plus d'explications. Donc tout cela, ce sera peut-être à revoir. Mais en l'occurrence, ce qui est marquant, c'est qu'on a voulu, et aussi bien Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron, se débarrasser de la journaliste qui était sans doute la plus qualifiée pour animer un débat comme celui-là, qui est Anne-Sophie Lapix. Mais là aussi, c'est très jupitérien. Pour les présidents qui espèrent, qui veulent avoir un rôle vis-à-vis des médias et qui estiment que les médias doivent être régulés par le pouvoir exécutif, le service public a toujours un rôle spécifique. C'est l'antre du pouvoir jupitérien. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron a toujours eu des propos très durs. Hein. On se rappelle qu'il le présentait comme la honte de la République, l'audiovisuel public.
Oui, c'est ce qu'il avait campagne, dit fin 2017, effectivement, selon des propos rapportés par le magazine L'Express. Hein, il qualifiait l'audiovisuel public de honte de la République. Ouais.
Voilà, en visant à la fois les programmes, les animateurs, les dirigeants, tout le monde. Et de fait, ensuite, il y a eu des coupes qui ont été imposées, des baisses d'effectifs, au moment même où l'audiovisuel public avait d'excellentes audiences et une excellente relation avec son public. Et dans cette campagne, on a vu qu'il a délaissé France 2, et pas simplement les journaux d'Anne-Sophie Lapix, il était complètement absent de ces journaux. Et même pour ce débat de l'entre-deux-tours qui traditionnellement est organisé à la fois sur TF1 et France 2 avec un représentant de chacune de ces rédactions, il aurait été logique que Gilles Boulot soit accompagné d'Anne-Sophie Lapix, c'était les deux présentateurs du 20h. Et finalement, il y a eu Léa Salamé à la place d'Anne-Sophie Lapix. C'était un choix à la fois de Marine Le Pen qui la déteste et d'Emmanuel Macron qui estime aussi que c'est une intervieweuse trop critique. Et précisément, c'est pour cela qu'il aurait fallu la défendre. C'est que c'est une remarquable intervieweuse. On l'a vu d'ailleurs, le président est allé le lendemain de ce débat de l'entre-deux-tours. Il est quand même allé dans son journal et Anne-Sophie Lapix a pu poser des questions très précises sur la retraite, par exemple. Et c'était un moment de vérité qui était très intéressant à 3 jours de l'élection. Mais ce débat de l'entre-deux-tours, et ça n'a rien à voir avec la qualité des intervenants. Hein. Gilles Boulot et Léa Salamé, ils ont essayé de faire leur travail. C'est pas du tout eux que je juge. Mais le format même, d'ailleurs on le voit très bien, les deux contradicteurs se regardent et les journalistes sont à l'écart et ils tentent tant bien que mal de faire respecter le chronomètre, mais c'est leur seule fonction. Ils disent on est les maîtres des horloges, mais c'est pas ça que le maître des horloges. Le président jupitérien qui se veut maître des horloges, il choisit le fonctionnement des médias, quel rythme il apparaît, avec quel journaliste, c'est ça être maître des horloges. Eux, ce sont, comme je le disais, des chronomètres vivants et ce ne sont que ceux-là. Et ça n'a rien à voir avec la qualité individuelle de ces journalistes, mais c'est simplement le format désuet de ce face-à-face qui les oblige à rester à distance du débat lui-même.
Alexis Lévrier, Emmanuel Macron, en fin de campagne présidentielle, a annoncé vouloir supprimer la redevance audiovisuelle, la contribution à l'audiovisuel public qui finance France Télévisions, Radio France, l'INA, TV5 Monde et France Média Monde, dont font partie RFI et France 24. Je vous propose qu'on l'écoute préciser sa pensée, son projet. C'était sur France Inter le 22 avril.
La clé pour moi, c'est qu'il ne puisse pas y avoir de régulation infra-annuelle par le gouvernement,
que l'exécutif
ne prend pas pression. Maintenant, je vous demanderai aussi d'être honnête collectivement, ça fait 5 ans que vous me pratiquez comme président, il n'y a jamais eu une intervention de ma part sur un journaliste, un programme ou quoi que ce soit dans l'audiovisuel public.
Les présidents changent. Hein.
Jamais. Non, je sais bien, c'est pour ça que le système...
C'est ça l'intérêt des institutions.
Exactement,
hein.
Mais c'est pour ça que ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la redevance, elle ne vous protège d'ores et déjà plus. Et donc le système que je veux instituer est plus protecteur.
Alors Alexis Lévrier, la redevance audiovisuelle en France, c'est 138 euros par ménage en France métropolitaine. Quand on entend Emmanuel Macron dire qu'il va mettre fin à cette redevance, qui est un moyen de subsistance et aussi d'indépendance pour l'audiovisuel public, même s'il explique que chaque année, l'État doit remettre au pot quelques centaines de millions d'euros, comment est-ce que vous interprétez cela et peut-on faire confiance dans cette proposition de créer et de mettre en place un budget pluriannuel pour l'audiovisuel public?
Mais le problème, si vous voulez, c'est justement ce qu'on évoquait tout à l'heure, la manière dont il a mené cette campagne. C'est-à-dire que dans un premier temps, il s'est contenté, avant le premier tour, de quelques rares interventions, à l'occasion desquelles, notamment lors d'une conférence de presse, il a annoncé la suppression de la redevance, sans envisager clairement de modalités de financement alternatifs. D'où l'inquiétude. Et in extremis, parce qu'il a été très présent dans notre deux tours, et effectivement dans cette émission que vous venez de citer, face à Léa Salamé et Nicolas Demorand, il a essayé de préciser, il a essayé de rassurer. Mais c'était trop tard. Il y a eu avant cela toute une période durant laquelle on n'a pas eu de propos clairs ni de la part d'Emmanuel Macron ni de la part de son entourage pour dire voilà comment on va essayer de compenser cette suppression de la redevance. C'est un impôt qui est impopulaire, la redevance, et de fait la suppression de la taxe d'habitation pose un problème puisque la redevance était adossée à la taxe d'habitation. Donc c'est pas illégitime de s'interroger sur l'évolution de cet impôt, mais il faut bien que les Français comprennent que c'est le prix de l'indépendance, la redevance. On a un lien direct qui se crée entre les Français et l'audiovisuel public parce qu'on paie la redevance. Et le jour où vous ne la payez plus, eh bien ça devient finalement au bon vouloir du président. Alors là, il dit qu'il y aura une obligation pluriannuelle, mais pour l'instant, ça n'engage que lui. Et surtout, il n'y aura plus de manière pour les Français de visualiser le lien qui est le leur avec l'audiovisuel public. Et ça deviendra pour tous les présidents un moyen, une variable d'ajustement finalement de l'audiovisuel public qu'on pourra baisser, augmenter en fonction des desiderata et avec une pression du coup qui va se créer sur l'audiovisuel public en fonction de son attitude vis-à-vis du pouvoir politique. Donc on sait qu'il y a en France, depuis toujours, depuis le XVIIe siècle, mais une dépendance des journalistes et du pouvoir médiatique à l'égard du pouvoir politique, et ça ne va pas s'arranger avec cette mesure. Je la regrette pour ma part, et je regrette surtout que, dans la manière dont il a mené cette campagne, Emmanuel Macron ait commencé par annoncer de manière très vague cette suppression, et qu'il ait aussi tardivement essayé de rassurer l'audiovisuel public sur ses intentions.
A-t-on déjà une idée un petit peu du calendrier de tout cela ?
Bien non, justement, on ne le sait pas. Il dit qu'il va y avoir une obligation pluriannuelle, donc sur la durée d'un quinquennat. Mais vous voyez bien que tout cela est très flou et très hypocrite. Quand il dit qu'il n'y a pas eu d'intervention directe de sa part sur l'audiovisuel public, c'est sans doute vrai. Sauf qu'il y a eu des nominations. Et ça, c'est comme ça depuis toujours dans la Ve République. Il y a des nominations au sein du service public. Et il y en a eu plein. Bertrand Delay, qui dirige LCP, c'est un des plus proches journalistes d'Emmanuel Macron. Il y a eu des nominations au sein de France Télé aussi. Bon, tout cela ne veut pas dire que les journalistes sont à son service, mais ça veut dire que l'audiovisuel a un lien problématique avec le pouvoir politique. Et le jour où vous supprimez la redevance, eh bien ce lien il devient encore plus incestueux, j'aurais tendance à dire. Et les Français n'auront plus cette possibilité de visualiser le lien qui est le leur avec l'audiovisuel public. Ça ouvre la voie à toutes les dérives.
Et face à cela, dans le privé, il y a également ce projet de fusion entre TF1 et M6. Un projet que Emmanuel Macron estime bénéfique pour faire face aux plateformes de streaming vidéo, les GAFAM, Netflix, Disney+, et compagnie. Mais là, sur ce point-là, on peut dire que bien, il est raccord avec ce qu'il a toujours dit. Il se disait déjà favorable à ce projet à l'époque où il était ministre de l'économie.
Oui, alors il est très cohérent de ce point de vue-là. Lorsqu'il était ministre de l'économie, il voulait qu'il y ait de grands géants nationaux dans les médias pour faire face à la concurrence des GAFAM. Donc on ne peut pas lui reprocher un manque de clarté de ce point de vue-là. Sauf qu'on le voit bien avec l'Empire Bolloré. Quand vous laissez se constituer des empires aussi tentaculaires, ils entrent en concurrence avec le pouvoir politique, ils ont souvent leur propre agenda et ils ont la possibilité d'influencer la vie publique de manière très claire. Et ce qui n'est pas avoué, ce qui n'a pas été explicite, ce qui n'a jamais été un enjeu de la campagne, c'est le lien qui existe entre Emmanuel Macron et le groupe TF1. Les Français doivent comprendre qu'avec la crise du Covid, on a vécu le désengagement d'acteurs historiques, Lagardère qui a perdu ses derniers médias, et puis surtout le groupe Bertelsmann qui est un groupe allemand qui détenait notamment RTL et M6. Et donc il était logique de se demander qui allait récupérer cette radio et cette chaîne de télévision. Et le choix d'Emmanuel Macron, de manière très claire, mais jamais explicite, a été de favoriser TF1. Et on va donc voir naître un géant qui regroupera les deux principales chaînes hertziennes privées, TF1 et M6, avec des problèmes considérables du point de vue du pluralisme de l'information, du point de vue des droits télé, du point de vue des recettes publicitaires. Et ça n'a jamais été dans le débat public, alors même qu'on était en campagne présidentielle. Donc le président a choisi de favoriser TF1, et ça va de pair avec une campagne où il a beaucoup avantagé TF1 dans le choix de ses interventions. Et là encore, ce que je regrette, c'est que ça ne soit pas un élément du débat public, qu'on n'en parle pas. Tout se fait à bas bruit, alors même que ça engage notre avenir. Et on vient de voir une campagne où on a pu tous se rendre compte à quel point les médias, bien sûr qu'ils ne font pas une élection, sinon Zemmour aurait été élu. Ils ne font pas une élection, mais par contre, ils peuvent définir les modalités du débat et impulser la naissance d'un vocabulaire, d'un imaginaire qu'on n'aurait pas imaginé possible un jour dans les médias français, en tout cas pas depuis la Deuxième Guerre mondiale. On n'a parlé que du grand remplacement. C'est une théorie complotiste qui vient du pire de la pensée d'extrême droite et qui s'est imposée au point que même Valérie Pécresse, candidate de la droite modérée, s'est définie par rapport à cette thématique et la reprise lors d'un de ces meetings. Donc les médias ont un rôle sur la vie publique qui est considérable, et pourtant les grands choix du point de vue des phénomènes de concentration sont faits alors même que les Français ne sont jamais informés, y compris en période électorale. Je trouve ça très regrettable.
Merci beaucoup Alexis Lévrier.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes historien des médias, maître de conférences à l'université de Reims. Votre dernier ouvrage s'intitule « Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse ». Il est paru aux éditions Les Petits Matins. Je vous dis à bientôt dans l'atelier des médias.
À bientôt, Steven.
J'indique à ceux qui nous écoutent que cette conversation est disponible en version longue dans le podcast de l'Atelier des médias. Et je remercie une nouvelle fois France Bleu Périgord à Périgueux de nous avoir permis ce duplex dans des conditions sonores optimales entre médias de l'audiovisuel public français. C'est bientôt la fin de cette émission et comme toujours le moment de Mondoblog Audio qui nous permet d'entendre les voix des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Le journaliste et blogueur congolais Jean-Hubert Bondo nous parle de l'état de la presse en République démocratique du Congo. Les défis de la presse sont nombreux dans ce vaste pays d'Afrique centrale, secoué par des décennies de pouvoirs autoritaires, de clivages ethniques et de guerres. Rappelons que la RDC occupe actuellement la 149e place sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF.
Connaissez-vous les conditions de travail des journalistes en RDC ? Pauvres journalistes congolais. À Kinshasa, ça va encore un peu, parce que c'est la capitale. Mais venez voir en province le genre de journalistes et de maisons de presse que nous avons. Je sais de quoi je parle, je suis moi-même journaliste. Au Congo, la presse n'est pas encadrée. Rares sont les organes de presse professionnels et responsables. Les structures de presse se limitent bien souvent à être le média de telle ou telle personnalité politique ou religieuse. Ces messieurs s'improvisent patrons de presse auprès des journalistes qui leur sont entièrement dévoués. La plupart du temps, les journalistes n'ont pas de contrat de travail et très souvent ils ne sont pas payés ou ne reçoivent que de très maigres salaires. Bref, ces entreprises de presse-là n'ont d'entreprise que le nom. Comme les journalistes n'ont pas de contrat de travail, leur emploi n'est pas du tout sécurisé. On peut les révoquer n'importe quand, n'importe comment, sans préavis. Un coup de fil suffit pour dire: désormais, toi, ne mets plus tes sales pieds ici et c'est fini. L'absence de cadre légal dans ces entreprises permet toutes les dérives. Par exemple, la femme d'un propriétaire de presse peut virer un journaliste sur un simple caprice. Quand une émission ne lui plaît pas, elle appelle le chargé des programmes TV et lui dit « Arrête-moi cette émission, mets-moi un film nigérian ou le catch américain. » Et si vous traînez à répondre, elle débarque elle-même dans les bureaux et vous suspend. Les journalistes sont donc livrés à eux-mêmes dans l'ultra-précarité. Cela aboutit à une généralisation de la corruption qui est devenue le modèle obligé du journalisme congolais. Cette corruption systématique porte un nom, le coupage, une pratique qui consiste à se faire payer pour écrire des articles flatteurs. Ainsi, la plupart des journalistes ne sont pas à la recherche d'informations, mais des personnes qui peuvent les payer pour publier leurs articles. Un député, par exemple, un chef d'entreprise, un représentant d'église, en fait une personnalité du même bord que le patron pour qui il travaille, bien sûr. Et les articles réalisés reflètent toujours ce que la personne veut entendre. Elle paye pour que l'on grossisse, modifie ou dénature l'information en sa faveur. Et ça jette ainsi un discrédit sur la profession. La réalité, c'est que les journalistes n'ont pas d'autre moyen pour survivre que d'accepter le coupage. Quant à la liberté de la presse, la situation est toujours préoccupante. Intimidation, menaces, agressions, médias suspendus, pillés ou saccagés, c'est ça le quotidien de la presse en RDC. La sécurité des journalistes n'est pas toujours garantie. Mais à côté de cela, il faut aussi dire qu'il existe bel et bien de très bons journalistes et de vrais organes de presse. Même s'ils ne sont pas nombreux, ils fournissent des efforts pour faire un travail professionnel et il faut les encourager, car le Congo a besoin d'informations fiables pour alimenter le débat public. Il faudrait que le gouvernement permette à la presse congolaise de sortir de son système de survie actuel pour une presse économiquement viable, responsable et indépendante. Espérons qu'un jour on y arrive.
En janvier 2022, le gouvernement congolais a organisé des états généraux de la presse. Reste à savoir s'ils vont permettre d'ouvrir une nouvelle ère pour les médias et les journalistes en RDC. C'était Jean-Hubert Bondo, journaliste et blogueur congolais, à retrouver sur rdc.mondoblog.org. Je vous invite à réécouter le précédent atelier des médias que nous avons entièrement consacré à Mondoblog Audio. C'est la fin de cette émission réalisée par Alice Ménard. La semaine prochaine, c'est une rediffusion que vous entendrez à la radio. Un entretien avec Louis Dreyfus, président du directoire du groupe Le Monde. En décembre 2021, il m'a expliqué comment le journal Le Monde voit une partie de son futur en Afrique. Si vous aimez l'atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast chaque samedi avant même qu'il soit diffusé sur RFI. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts ou encore l'appli Radio France. Mettez-nous des étoiles sur toutes les plateformes où vous le pouvez et laissez un commentaire constructif pour donner envie au plus grand nombre de faire partie de notre communauté d'auditeurs. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse atelier@rfi.fr ou un message via Twitter. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.
Vous avez écouté l'Atelier des médias avec Connect. Connect, l'internet fixe par satellite qui permet de capter en haut débit partout en Afrique, dans les grandes villes, les petites et même au village.